Vous écoutez Radio France Internationale, il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
Le bras de fer entre Donald Trump et Harvard, le président américain ne veut plus d'étudiants étrangers à Harvard. La prestigieuse université américaine attaque en justice l'administration Trump sur cette interdiction. Gaza ravagée par les bombardements, les sociétés de journalistes d'une vingtaine de médias français, dont RFI, publient une tribune ce vendredi dans laquelle elles appellent les autorités françaises à faciliter l'évacuation de leurs collaborateurs gazaouis en danger de mort. Bruno Retailleau, nouveau chef de file des Républicains, il a le vent en poupe. Pour la première fois, le ministre de l'Intérieur est devant l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans un sondage d'opinion. Enfin, tennis, c'est bientôt le coup d'envoi de Roland-Garros, le dernier pour l'ancienne numéro 1 française, Caroline Garcia. Elle l'a annoncé ce matin. Harvard contre-attaque, donc recours en justice déposé il y a quelques heures contre la dernière mesure de l'administration Trump. Le gouvernement américain a décrété hier l'interdiction pour Harvard d'accueillir des étudiants étrangers. Décision radicale qui pourrait concerner près de 6800 étudiants, soit plus d'un quart des inscrits au sein de la prestigieuse université et qui a sonné le campus hier. La présidence d'Harvard parle cet après-midi de dispositions injustifiées et illégales. Harvard attaque donc maintenant en justice l'administration Trump. Vincent Souris.
Oui, la lettre s'intitule « Soutien à nos étudiants et à nos enseignants étrangers ». Elle est signée Alan Garber, l'emblématique président d'Harvard. Il martèle qu'un recours en justice a bel et bien été engagé ce matin et qu'une procédure de référé va suivre dans les heures qui viennent. Autrement dit, l'université demande à la justice la suspension immédiate de cette mesure en attendant que les tribunaux se prononcent sur le fond. Alan Garber y voit le dernier chapitre d'une série de représailles du gouvernement américain parce qu'écrit-il, nous refusons d'abandonner notre indépendance académique et de céder le contrôle de nos programmes, de nos facultés et du recrutement de nos étudiants. Le patron d'Harvard répond aussi sur la forme. Le ministère de l'Intérieur prétend qu'il sanctionne les étudiants étrangers parce que nous n'avons pas répondu à ces demandes. En réalité, assure Alan Garber, nous avons répondu à ces requêtes comme la loi nous y oblige. Il termine cette missive en s'adressant aux étudiants et aux chercheurs étrangers directement. Nous vous soutiendrons, dit-il, autant que nous nous battons pour garantir qu'Harvard reste ouverte au reste du monde.
Merci beaucoup Vincent Souris du service international de RFI. J'ajoute que le gouvernement allemand vient de fustiger cette décision du gouvernement américain d'interdire l'accueil d'étudiants étrangers à Harvard, qualifié de restriction à la démocratie. La guerre dans la bande de Gaza et cette question, que reste-t-il du territoire de Gaza pour la population? Dans son dernier brief sur la situation dans l'enclave côtière affamée, ravagée par les attaques israéliennes, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, l'OCHA, indique qu'il ne reste plus que 20% de Gaza où les 2 millions de civils s'entassent. Le reste est soit une zone militarisée par Israël, soit qui fait l'objet d'un ordre d'évacuation. Dans cette situation, les sociétés des journalistes d'une vingtaine de médias français publient une tribune ce vendredi dans laquelle elles appellent les autorités françaises à faciliter l'évacuation de leurs collaborateurs gazaouis en danger de mort. La SDJ de Radio France Internationale fait partie des signataires. Son président Nathanaël Vitran explique pourquoi il lance cet appel aujourd'hui.
Il y a une réalité, c'est que depuis le début de la guerre à Gaza, le gouvernement israélien n'a jamais permis à la presse internationale de faire son travail, de se rendre sur place. Et donc la seule manière pour les médias internationaux de parler de ce qui se passe depuis 18 mois à Gaza, c'est à travers le travail et le regard de nos collègues. Ce sont nos yeux, ce sont nos oreilles, c'est grâce à eux qu'on peut entendre sur RFI et ailleurs les témoignages de Gazaouis. C'est grâce à eux qu'on a pu documenter les destructions d'hôpitaux, par exemple. Sur RFI, vous entendez souvent le nom de Rami El-Merali, avec qui travaille étroitement Sami Bourlifa. Mais on voit bien, malheureusement, aujourd'hui, que non seulement ce statut de journaliste ne protège plus nos collègues, mais même qu'il les expose. Plus de 200 journalistes, rappelle ce chiffre, plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués ces 18 derniers mois à Gaza, c'est considérable. Rami El-Merali lui-même s'est fait tirer dessus en voiture. Cette semaine, sa fille a miraculeusement survécu à un bombardement israélien. Voilà, donc même si c'est un crève-cœur, peur pour eux d'abord. Au moment où l'armée israélienne intensifie son offensive, entend prendre le contrôle total de la bande de Gaza, nous estimons qu'il y a urgence, qu'il y a danger de mort, d'où cet appel que nous lançons aujourd'hui.
Nathanaël Vitran, le président de la SDJ de RFI. Une réunion de travail cet après-midi à Paris entre la France, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères, l'ordre du jour, la préparation de la conférence sur une solution au conflit israélo-palestinien dite à deux États qui se déroulera à New York dans un mois. Un sommet co-présidé par Riyad et Paris. Benjamin Netanyahou plaide pour un changement rapide à la tête du Shin Bet après avoir défié la justice et une bonne partie de l'opinion la veille en annonçant avoir sélectionné un candidat pour diriger cette agence israélienne du renseignement intérieur. Le chef du gouvernement israélien a choisi le général de division David Zinni pour diriger le Shin Bet. La procureure générale de l'État et conseillère juridique du gouvernement lui avait pourtant interdit la veille de nommer un remplaçant au directeur démissionnaire. Les négociations entre Téhéran et Washington consacrées au programme nucléaire iranien ont repris à Rome. Les enjeux de ces discussions sont importants pour les deux pays. L'Iran souhaite se débarrasser des sanctions pesant sur son économie centrée sur le pétrole. Les États-Unis, eux, espèrent réduire le potentiel de Téhéran à produire une arme nucléaire. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump annonce un gros échange de prisonniers entre les deux pays qui entrera en vigueur très prochainement. Donald Trump se félicite de cette décision qui pourrait conduire à quelque chose d'énorme, s'interroge-t-il. Ni Moscou ni Kiev n'ont pour l'instant confirmé. La politique en France, la très large élection de Bruno Retailleau à la tête des LR porte de premiers effets dans l'opinion. Pour la première fois, Raphaël Delvolvé, le ministre de l'Intérieur, est devant l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans une enquête de popularité au Doxa.
Les courbes se croisent et désormais avec 51% de bonnes opinions, le ministre de l'Intérieur, dont la popularité ne cesse de monter depuis son entrée au gouvernement, dépasse de 3 points l'ancien Premier ministre. Bruno Retailleau semble donc bénéficier d'un effet booster après son élection probante à la tête des LR, elle-même due en grande partie à sa forte exposition médiatique au ministère de l'Intérieur. Dans son discours de victoire de dimanche, le ministre chef de parti se gardait pourtant bien d'évoquer une candidature à la présidentielle, appelant prudemment à d'abord élaborer un projet et faire émerger des idées nouvelles. Il le sait, son espace politique, allant du centre droit à la droite, est ultra concurrentiel en vue de 2027. Outre Édouard Philippe, déjà déclaré, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, mais aussi Xavier Bertrand se positionnent. Bruno Retailleau semble en tout cas avoir enclenché une dynamique dans l'opinion. Reste à la maintenir pour envisager une candidature crédible. 2 ans, c'est court, mais aussi très long.
Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. C'est par ce préambule que Caroline Garcia a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux que le prochain tournoi de Roland-Garros, qui débute ce dimanche, sera son tout dernier. L'ancienne numéro 1 française arrêtera en effet sa carrière dans les semaines qui viennent, sans préciser la date précise. Ce sera alors la fin d'un parcours au cours duquel elle aura alterné le meilleur comme le pire. Éric Mamrut.
C'est en 2011 à Roland-Garros que Caroline Garcia se révèle au monde du tennis. Propulsée à 17 ans sur le court central, elle manque de peu de battre la star russe Maria Sharapova. Séduite par la fougue de la jeune lyonnaise, Andy Murray annonce alors « cette fille sera numéro 1 mondial ». Le champion écossais ne verra pas sa prédiction se réaliser, même si Caroline Garcia atteindra le 4e rang à 2 reprises. En 2017 et en 2022, sa grande année conclut par un sacre au Masters féminin. L'un des 11 titres qu'elle a glané en simple durant sa carrière. La native de Poissy remporta également Roland-Garros à 2 reprises en double, mais aussi la Fed Cup avec l'équipe de France. Beaucoup de hauts donc, mais beaucoup de bas également pour celle qui était alors la leader incontestée du tennis français. Avec en filigrane beaucoup de souffrances, comme elle l'a révélé récemment dans une longue confession. Des blessures, au dos et à l'épaule, mais aussi un rapport toxique avec le tennis, avec une pression et une exigence envers elle-même qui l'a consumée mentalement. Après un premier break de quelques mois opéré en septembre dernier, celle qui est aujourd'hui 145e mondiale décide finalement à 31 ans, je cite, de passer à autre chose dans quelques semaines, car mon corps et mes aspirations personnelles me le demandent.
Caroline Garcia qui pour son dernier Roland-Garros affrontera au premier tour l'américaine Bernarda Pera. Du football enfin en Italie avec une dernière journée à suspense pour le titre avec son point d'avance et la réception de Cagliari. Naples a tout en main pour décrocher ce soir un 4e titre de champion d'Italie. Mais cette saison très indécise n'est pas à l'abri d'une énième retournement de situation qui sacrerait l'Inter Milan en déplacement à Côme à 8 jours de la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, vous êtes toujours à l'écoute de RFI. Il est tout juste 16h10 à Paris. Excellente fin d'après-midi.